heureux de donner la parole à Clive Thompson, que vous connaissez tous. Je n'ai pas besoin de présenter. Je rappellerai, parce que son activité de chercheur est, multiple, je rappellerai malgré tout les, directions de ses travaux. Il est aujourd'hui professeur à l'université de, Guelph au Canada. Il a été avec moi, avec d'autres, l'un des artisans de cette grande aventure de la correspondance qui a donné lieu à la publication des 10 volumes de la correspondance entre 1978 et 1995, et dont l'histoire est retracée dans le Zola épistolier qui circule parmi vous, dont nous nous connaissons depuis très très longtemps. Mais je dirais aussi qu'en dehors de ses travaux sur Zola, c'est un théoricien de la littérature qui s'est intéressé aux travaux de Lukács, aux travaux de Bakhtin. Il a réfléchi aussi aux questions concernant la parodie ensemble. D'ailleurs, il y a quelques années, hein, vous étiez un peu plus jeune, Clive, nous avions organisé en 1985 un colloque à Cerisy sur la parodie, dont les actes ont été publiés quelques années plus tard. Voilà, j'aimerais insister sur cette dimension de réflexion théorique qui est la sienne. Et depuis quelques années, il s'intéresse à l'histoire des savoirs concernant la, sexualité dans, la fin du XIXe siècle, à partir des perspectives qui sont celles de Michel Foucault notamment. Et il vient publier un, livre important, un livre qui a attiré l'attention, qui a suscité plusieurs grands commentaires critiques aux éditions du Félin. Il vient publier un ouvrage intitulé « Georges Herrel, archéologue de l'inversion sexuelle, fin de siècle ». Voilà, et cet ouvrage, peut-être qu'on l'évoquera dans la discussion qui va suivre, lui permettra notamment d'être le commissaire avec Philippe Barthière d'une exposition qui se tiendra à la mairie du 4e arrondissement en juin prochain. Voilà, j'ajouterai qu'il a beaucoup travaillé sur le roman de Zola Paris, auquel il a consacré sa thèse, et qui prépare pour les éditions Classique Garnier, une édition critique de, Paris, le dernier volume, comme vous le savez, le dernier tome des Trois Villes. Voilà, je suis très heureux qu'il ait accepté de venir aujourd'hui, et je lui donne la parole.
Merci beaucoup, Alain. Permettez-moi de commencer par une anecdote. 2016 est une année anniversaire importante dans mon expérience. Il y a 40 ans, Alain vient d'en parler, le 8 décembre 1976, j'ai soutenu ma thèse de doctorat à l'Université de Toronto. Ma thèse avait pour titre « Édition critique de Paris » d'Émile Zola, avec introduction historique, études génétiques et analyse idéologique. Parmi les membres du jury, mon directeur de thèse, Henri Mitran, notre très regretté ami et grand spécialiste de l'œuvre de Zola, David Bayulé, disparu il y a 2 ans, et Michael Marus, professeur d'histoire à l'Université de Toronto, historien de l'Holocauste et de l'histoire juive. C'est une pure coïncidence, mais me voici, à 40 ans de distance, presque jour pour jour, en train de reprendre devant vous mes recherches sur les Trois Villes de Zola. On pourrait dire, selon la vieille expression, que la boucle est bouclée. Sauf que mon parcours depuis décembre 1976 n'a été ni circulaire, ni en ligne droite. Je n'ai pas du tout l'impression d'être revenu à mon point de départ. C'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui. Ensuite, je tiens à remercier Alain Pagès de m'avoir invité à participer au séminaire Zola. En fait, c'est la deuxième fois que je présente mes recherches devant les collègues dans ce contexte. En 1997, il y a 19 ans, Alain m'a mis au programme. Ma présentation s'intitulait « Émile Zola et la science médicale fin de siècle ». Je me souviens à cette occasion d'avoir beaucoup apprécié les suggestions et les encouragements que les participants du séminaire m'ont donné pendant la discussion qui a suivi mon exposé. Ce travail sur Zola et la médecine fin de siècle marquait aussi le tout début de la période de mes recherches dans le fonds Georges Herel, à la bibliothèque municipale de Troyes, et qui ont abouti à la publication de mon livre sur Herel. Aujourd'hui, les enjeux sont un peu les mêmes. Encore une fois, je suis dans la première phase d'un projet de recherche, la préparation de l'édition critique de Paris, de Zola. J'espère à nouveau profiter des conseils, de vos conseils, et bien entendu avoir vos encouragements. Deuxième élément anecdotique, j'ai eu un accident il y a 2 semaines en travaillant dans les archives de la famille Saint-Paul qui se trouve dans le château de Racé, près de Loches, en Touraine. Michael Rosenfeld, ici présent, et moi étions en train de trier et d'organiser les archives énormes du docteur Georges Saint-Paul qui se trouve dans ce château. En faisant un faux mouvement, pendant que j'essayais de soulever une malle très lourde, remplie de livres et d'autres documents, je me suis fait très mal au dos. Et par la suite, j'ai dû passer presque une semaine entière au lit. C'était la semaine dernière. Tout cela pour dire que je n'ai pas pu donner tout le temps que j'aurais voulu à la préparation de l'exposé que je vous présente aujourd'hui. Bien, alors je vais essayer de limiter mon exposé à une quarantaine de minutes pour qu'on ait une bonne discussion après. J'aimerais avoir une bonne conversation avec vous sur ce projet de recherche que je suis en train d'entreprendre. Enfin, c'est l'objectif. L'objectif, c'est d'écouter vos conseils, vos suggestions et vos réactions à ce que je vais vous dire sur le projet. Alors, sur l'exemplier, vous voyez le plan de mon exposé, une première partie, nouvelle édition critique de Paris, des Zola, point d'interrogation. Deuxième partie, je vais dire quelques mots sur les études critiques anciennes et plus récentes sur les trois villes. Troisième partie, une grande question sur la méthodologie. Et puis, une dernière partie, Zola, psychologue. Point d'interrogation aussi. Alors, dans la première partie, ensuite, après le plan de mon exposé, sur l'exemplier, vous voyez la liste des éditions de ce roman, Paris, à commencer par l'édition Bernoir, qui a été publiée en 1928-29, et avec des commentaires de Maurice Leblond. Ce qui est intéressant dans cette édition de Maurice Leblond, c'est qu'il met le doigt dans ses notes sur la question de l'idéologie. Maurice Leblond affirme que Paris est un roman, surtout un roman idéologique. C'est la phrase qu'il utilise, une phrase simple pour commencer les notes qui se trouvent à la fin de cette édition. Et à partir de cette affirmation, et depuis jusqu'à maintenant, ce thème figure régulièrement dans les articles, les livres qui portent sur Paris des trois villes. C'est un roman idéologique, un roman plein d'idéologie. Alors après, donc, deuxième édition que j'ai sur la liste, c'est l'édition d'Henri Guillemin, qui a publié sans date, mais je pense que cette édition est de 68-69 peut-être. Je pense que c'est 69. Alors il y a quelques notes, quelques éléments, une préface de Henri Guillemin, je vais en parler tout à l'heure de cette préface. Ensuite, troisième édition, c'est certes du livre précieux, 68, Henri Mitran, directeur de cette nouvelle édition des œuvres complètes, avec une préface de René Ternoy, qui avait soutenu et publié sa thèse au début des années 60 sur les trois villes, une grande thèse, qui est un livre important, bien sûr, dans l'histoire de la réception de la critique sur les trois villes, avec les notes à la fin de cette édition, cercle précieux, de Henri Mitran. Ensuite, une autre édition dirigée par Henri Mitran en 98, édition Stock, toujours avec les notes d'Henri Mitran. Le cinquième édition que j'ai sur ma liste, c'est l'édition de Jacques Marais, qui n'est pas ici.
Ah, bon, je vous salue en la présence.
J'espérais vous voir aujourd'hui, justement. Alors, cette édition est l'édition de référence pour l'instant, puisque c'est une édition critique détaillée, avec une préface et un dossier important qui contient une chronologie, des notes, bibliographie. Une autre édition, je pense que c'est la dernière qui a été publiée, c'est le numéro 6 sur ma liste, dans les éditions Nouveau Monde, avec une présentation de notices, chronologie, bibliographie de Jacques Moret et de Jean-Louis Cabanès. Alors, une première question simple, importante, nécessaire, se pose, comment justifier une nouvelle édition critique de Paris? Ce serait possible, bien sûr, de ne pas poser la question du tout et de faire confiance au bon jugement des éditeurs de cette nouvelle édition des œuvres complètes et de se dire essentiellement qu'ils savent ce qu'ils font. Quand je pense aux excellentes éditions qui ont déjà paru aux éditions Classique Garnier et qui font partie de cette nouvelle édition des œuvres complètes Zola, je pense à l'édition de David Bagulet, de La Débâcle, qui est magnifique, ou l'édition de Bertrand Marker, de Lourdes, publiée en 2015. Aussi, un excellent travail. Donc, ces éditions-là prouvent qu'il est possible d'aller plus loin par rapport aux éditions précédentes et de proposer de nouvelles idées sur la genèse des romans de Zola. Donc une nouvelle édition de Paris peut se justifier, je pense, à condition d'être en mesure de mettre en évidence de nouvelles dimensions de la genèse de ce roman. Donc mon objectif aujourd'hui est assez simple, c'est d'essayer de vous démontrer cette possibilité. Et vous me direz, à la fin, si ma démonstration est convaincante. Quand on regarde de près les éditions de Paris qui existent, on constate des divergences relativement mineures au niveau des méthodologies utilisées pour l'étude génétique et au niveau du détail de l'analyse du dossier préparatoire du roman. Si je compare, par exemple, l'analyse du dossier préparatoire de Paris que j'ai faite dans ma thèse en 1977 et celle proposée par René Ternois, Jacques Moret, Marie Lapierre, ici présente aussi, et par les autres collègues, les désaccords sont peu nombreux. Je m'écarte toutefois des autres lectures du dossier préparatoire sur quelques points précis. Et c'est peut-être donc ma justification principale pour le travail que je vais faire sur cette édition critique de Paris. Voilà quelques exemples où je vais proposer peut-être quelques éléments un peu différents sur la genèse de Paris. Je pense qu'il est possible de montrer que l'ébauche de Paris, qui fait 192 pages, la plus longue de toutes les ébauches écrites par Zola, constitue non pas un texte qui fut rédigé d'une manière continue, relativement continue, avant que les recherches documentaires ne commencent. En fait, il me semble que les recherches documentaires, la rédaction des fiches sur les personnages et les recherches que fait Zola sur les lieux où se passent les différents épisodes du roman commence bien avant que l'ébauche ne soit terminée. Autrement dit, je pense que certains commentateurs ont créé une image trop simple de la façon dont Zola a composé ce roman. Comme Marie Lapierre, dans sa thèse soutenue le 15 mars 2016, avec le titre « Le langage des sources dans les trois villes » de Zola, la dialectique de la foi et de la raison, j'aurais tendance à insister davantage sur les moments d'hésitation et de doute qui manifestent le travail de Zola pendant qu'il est en train de préparer son roman. Et mon première citation sur l'exemplier, numéro 1, voilà, je cite Marie Lapierre, « Car Zola doute, il hésite, il s'interroge, il émet des hypothèses, et en cela, les dossiers préparatoires témoignent d'une véritable pensée à l'œuvre. Dès lors, ils sont indubitablement le lieu de l'hypothèse d'un Zola lecteur qui porte un regard théorique et critique sur ses sources. Fin de citation. Je pense que certains collègues, en préparant leur étude génétique de Paris, ont eu tendance à accepter ce que Zola dit lui-même, de sa façon de travailler, surtout lorsqu'il affirme, comme dans la citation suivante, que quand il met de la théorie dans la bouche de ses personnages, il ne fait que reproduire, c'est le mot de Zola, les idées qu'il connaît. Donc, deuxième citation sur l'exemplier, c'est Zola, donc, dans un entretien de l'événement de 1894, donc, un entretien qui date de la même période que la préparation des trois villes. Je cite, « Quoi qu'il en soit, je n'ai fait que dessiner des caractères, que reproduire des théories, vues ou lues dans le milieu que j'étudiais. Et tenez, à propos du docteur Pascal, on a cru le voir critiqué quand on ne l'a pas raillé la théorie scientifique que j'y expose par la bouche de mon héros. Eh bien, elle m'a été fournie tout entière, cette théorie, par un médecin, le docteur Chéron, lequel a fait à ce sujet de nombreuses communications à l'Académie de médecine dont il est membre. » Fin de citation. Zola crée cette image qu'il copie seulement, il reproduit certaines théories pour les mettre dans les bouches de ses personnages, sans transformer ses théories. Comme je l'ai montré dans les articles que j'ai publiés sur la jeunesse de Paris, il y a déjà 30 ans, Zola transforme considérablement et parfois radicalement les sources dont il se sert. Le processus de cette transformation peut faire l'objet d'une analyse détaillée. Je pense être en mesure de montrer, par exemple, que la pensée de Gabriel Tarde, et non pas celle de Fourier, est l'ingrédient le plus important dans la nouvelle religion que Pierre Froment annonce à la fin du roman. Ça, c'est une première, différence. Donc, je me dis, je suis tout à fait d'accord avec Marie Lapierre, qui fait un très long chapitre, très intéressant, fascinant, sur le débat dans les notes de Zola entre, d'un côté, les idées de Tarde et les idées de Nitti, ce penseur italien, dont Zola a lu un texte qui s'appelle « Le socialisme catholique », et dans l'ébauche, à travers l'ébauche de Paris, Zola se livre à un véritable débat. Il écrit le débat qu'il a avec ces deux penseurs pour aboutir à la fin de l'ébauche à se mettre d'accord avec Tarde, à se mettre du côté de Tarde et les idées de Tarde. Et les articles que j'ai dit, c'est que les articles que Zola lit pendant la période de la préparation de ce roman, ce sont les articles très récents. Enfin, il lit un article de Tarde de 95, l'article de Nitti, je pense, de livre de Nitti, c'est de 95, 14, quelque chose comme ça. Donc les sources documentaires, enfin livresques de Zola pour Paris sont extrêmement récentes. On a parfois dit que Zola pour Paris se contente de faire très peu de recherches documentaires ou livresques et il se contente de lire quelques éléments, quelques articles rapidement pour confirmer ce qu'il sait déjà. Et je pense qu'il est possible, comme je disais, de montrer que Tarde représente un apport enrichissant qui modifie fondamentalement les idées de Zola sur le statut de la religion et surtout sur la façon dont la religion se propage dans une société. J'irai peut-être encore plus loin que Marie Lapierre en insistant sur l'importance de Tarde et sur ce que j'appelle l'enrichissement de la pensée de Zola par ses recherches sur Tarde. Il y a aussi la question qu'on a posée de temps en temps, pourquoi cette ébauche est-elle si longue? 192 feuillets, c'est l'ébauche la plus longue de tous les temps de Zola. Je pense que c'est justement Zola avait beaucoup d'hésitations, de doutes sur ce qu'il faisait. Il avait du mal à aboutir à une sorte de synthèse sur la religion, cette religion nouvelle, qu'il veut mettre à la fin du roman. Il y a aussi un autre élément qui n'a pas été beaucoup présenté dans les autres éditions, c'est la question des variantes. Il y a pour Paris beaucoup de variantes, relativement mineures, mais il y a quand même des variantes intéressantes. Certains personnages changent de nom entre les épreuves corrigées et la première édition, par exemple. Voilà, donc c'est justement c'est dans ce sens que j'aurais envie d'essayer d'apporter quelques éléments nouveaux dans l'étude génétique de ce roman. Donc je me mets un peu du côté, enfin je montre un peu mon âge, comme on dit en anglais, en insistant sur le dossier, enfin les éléments du dossier de cette façon-là. J'ai beaucoup été influencé pendant les années 1980 par les recherches de certains textologues, comme on les appelait, Claude Duchet, Roger Laufer, Jean Belmanuel, Raymond de Genette, ces chercheurs-là qui ont essayé de renouveler l'étude génétique. Claude Duchet a utilisé une expression que j'aime bien. Il a dit que ce sera bien si, pour une fois, on pouvait regarder les dossiers préparatoires de Zola comme les lieux d'un désastre de l'écriture. L'expression est un peu forte, mais il y a quelque chose d'intéressant dans la phrase de Claude Duchet. Donc, deuxième partie de mon exposé, les études critiques qui existent sur les trois villes. Les études critiques qui portent sur ce roman montrent une grande variété d'interprétations, d'approches et d'opinions sur la qualité littéraire de ce roman. On peut se demander pourquoi tant d'opinions divergentes. Paris a été jugé le meilleur et le pire des trois villes. René Ternoy, par exemple, trouve Paris bien inférieur à Lourdes et à Rome. En 1898, les opinions des contemporains de Zola ont beaucoup varié aussi. En voici quelques exemples. Rachilde, par exemple, écrit ceci. « Paris est une œuvre de beaucoup supérieure à La Terre et à La Bête humaine. Moins bonne, peut-être, comme qualité d'énergie que Lourdes, où le libre penseur s'étalait avec une audace têtue du métier, vraiment extraordinaire, mais plus intéressante, plus près de nous que Rome. Bonnetière écrit en 1898, « Paris est fort au-dessus de Rome, et même fort au-dessus de Lourdes. » Un autre critique, Grandfort, écrit, toujours à la période de la réception, en 1998, « Le magnifique livre qu'aucun autre ne dépasse dans l'œuvre d'Émile Zola. » Gustave Kahn écrit, « Paris fera donc, à mon sens, bonne figure dans la bibliographie de l'écrivain. » La question que les critiques plus récents ont posée souvent, c'est celle-ci. Comment situer Paris par rapport aux romans de Zola qui précèdent et par rapport à ceux qui suivent? Henri Guillemin donne une réponse paradoxale. Je cite, « À son insu, déjà, en 1897, Zola changeait. Paris, bien lu, explique mieux, j'accuse. » Fin de citation. Dans la perspective de Guillemin, le roman Paris constitue une nouvelle direction, un changement, mais en même temps contient des éléments de continuité qui permettent de le rattacher à ce qui vient après, à savoir l'engagement de Zola dans l'affaire Dreyfus. Henri Mitran fait un contraste entre le style de la narration dans les trois villes et celui des romans de la série des Rouen-Macquart. C'est la citation 3 sur l'exemplier. Le modèle romanesque des trois villes est un modèle à programme, avec des rouages univoques qui fonctionnent sans surprise, par la seule détente des ressorts initiaux, plus proche de la mécanique horlogère que de la machine thermodynamique à laquelle font penser le flux d'énergie circulant à travers les Rouen-Macquart. Là où certains collègues voient les trois villes comme des romans de transition, Henri Mitran insiste sur leur différence, sur leur spécificité, sur le plan moral. Citation 4. Du point de vue du contenu moral, il n'y a donc pas de solution de continuité entre les trois villes et les quatre évangiles. Pas plus qu'il y en avait entre le dernier roman des Urumbaka et les trois villes. Et je pense que Jacques Noiré partage cette même position, attitude. Je cite, citation 5 de Jacques Noiré, « Telle est la nouveauté de Paris, non seulement dans les trois villes, mais dans l'œuvre de Zola tout entière. Le romancier y parle enfin du monde qui l'entoure, de l'actualité, des problèmes et des crises de l'œuvre. Jamais les Urumbaka ne parlent vraiment de la société contemporaine. » Pour ce qui est de la qualité de Paris, beaucoup de commentateurs ont dit que c'est surtout le contenu politique de ce roman qui est son aspect le plus intéressant. On minimise parfois les éléments romanatès, l'intrigue, la liaison amoureuse, etc., entre Pierre et Marie. C'est surtout ce contenu politique qui est le plus souvent cité comme représentant la qualité. L'aspect le plus intéressant, la dimension la plus intéressante de ce roman. On a beaucoup aussi parlé pour savoir à quel genre Paris appartient, genre littéraire. Les opinions aussi diffèrent beaucoup. Moi-même, dans les cahiers naturalistes, en 1980, j'ai écrit ceci, citation 6, « Lourdes, Rome, Paris et vérité » sont des romans d'actualité religieuse, politique et sociale, tandis que Fécondité et Travail sont des romans utopiques. Les trois villes et les quatre évangiles ne sont que deux variantes d'un même genre littéraire, le roman à thèse. Un peu trop simple comme affirmation, je pense. Donc, Jacques Noiré insiste également sur la dimension idéologique des trois villes et des quatre évangiles. Je cite, citation numéro 7, « Les villes et les évangiles marquent dans l'œuvre de Zola le moment où l'idéologie fait irruption dans le romanesque, où les personnages ne sont plus que l'incarnation d'une idée, où le texte se fait discours. L'image du fleuve de lait, comme sa répétition même le prouve, devient un fragment de ce discours. » Donc cette citation déplace un peu les choses en situant le débat sur le terrain du discours. Et, c'est un peu dans ce sens-là que j'ai envie d'aller à l'analyse du discours. Sophie Guernès aussi reprend cette perspective. Elle évoque la question de savoir comment situer les trois villes, Paris, par rapport au Urumbaka, et elle utilise toujours cette notion de roman à thèse. Je cite, donc, citation numéro 8, « De fait, le principal élément de changement entre les deux cycles, c'est l'investissement idéologique de l'écrivain, qui fait de ses derniers livres des romans à thèse. » Pierre Froment est l'interprète de double de Zola. Avec cette tendance, se radicalise dans les trois villes. On peut se demander si ces romans ne sont pas à tout prendre plus naturalistes que les premiers et plus fidèles au projet initial de Zola, qui n'était pas de séduire, mais d'instruire les lecteurs. Donc, roman à thèse, ici, est conçu comme genre didactique. De temps en temps, en lisant d'autres critiques, je reste un peu sur ma faim pour savoir exactement ce qu'on entend par roman idéologique, enfin roman à thèse. Alors, Bertrand Marker adopte une position intéressante et différente à l'égard de Lourdes, mais qui s'applique, qu'on peut discuter en l'appliquant à Paris. Voilà ce que écrit Bertrand Marker dans son édition critique de Lourdes. C'est la citation 9. À ce titre, Lourdes est peut-être moins le roman à thèse dans lequel on s'applue à reconnaître l'inclination de la future œuvre zolienne que le roman de l'impasse naturaliste, puisque le document, la description obsessive de la réalité, ne donne plus, ou pas encore, accès à sa maîtrise, ou encore moins, et encore moins, à sa vérité. Et je reviens encore une fois à l'étude de Jacques Moret. Il affirme ceci, ce n'est pas sur l'exemplier, il parle de ce qu'il appelle le paradoxe de Paris. Je cite, « Commencé en drame noir, Paris finit en conte bleu. Il en ira de même pour fécondité et pour travail. La dernière des trois villes est aussi le premier des quatre évangiles. » C'est une perspective très intéressante, je pense, de voir comment Paris peut être rattaché aux quatre évangiles. Donc, roman de transition, en quelque sorte. Mais j'ai envie d'essayer de montrer peut-être plus clairement cette peut-être nouvelle possibilité de travailler sur Paris et sa genèse. Et pour aller dans ce sens, je vais citer Thomas Conrad, aussi présent, son livre important sur le roman, qui a été publié en 2015, c'est ça, 2015. Je cite pour vous montrer une autre perspective. « Les trois villes n'ont rien en commun avec ce que nous avons appelé le modèle épique des Rouhmacher. Dans le contexte d'une crise du roman, du naturalisme, voire d'une crise du roman, apparaissent de nouveaux enjeux et de nouvelles formes. Sa trilogie s'inscrit dans une poétique du roman renouvelé. En effet, une des nouveautés principales des trois est le rôle décisif que Zola fait jouer au discours, ceux du narrateur, de ses porte-paroles idéologiques ou de ses personnages repoussoirs. La dominante du cycle est maintenant discursive plutôt que narrative. Les trois villes mettent en scène la relation entre le monde et le sujet qui le pense autour de la question religieuse. » Donc je vais revenir à cette dernière phrase. « Les trois villes mettent en scène la relation entre le monde et le sujet qui le pense. » Cette perspective nous permet peut-être d'aller vers une méthodologie un peu différente. Voilà, donc troisième partie de mon exposé, question de méthodologie. La perspective de Bertrand Marker est très suggestive, comme je l'ai dit, et montre une piste prometteuse, celle de l'analyse épistémologique, dans le contexte d'une analyse du discours. Donc, une autre citation de Bertrand Marker, c'est la citation numéro 11. Centrale, la croyance est donc d'emblée disqualifiée en tant que pratique religieuse et réaffirmée en tant qu'impératif psychologique. Elle définit le drame de Lourdes et du personnage de Pierre, tout en signifiant le glissement épistémique, je souligne glissement épistémique, à l'œuvre dans ce nouveau cycle romanesque. L'enjeu désormais n'est plus tant la quête de la vérité que le constat du pouvoir de l'illusion. Aussi le roman expérimental subit-il avec Lourdes une mutation profonde, alors même que la rigueur de l'enquête semble assurer une forme de pérennité dans la méthode de composition. Le document naturaliste ne cherche plus à établir l'indéniable véracité des faits, mais à ouvrir sur le vaste champ de l'inconnu que représente la guérison spontanée des maladies nerveuses. C'est ce glissement épistémique que mentionne Bertrand Marker qui m'intéresse. Donc si je... Il y a un livre qui m'a beaucoup intéressé pendant que j'étais en train de préparer cet exposé. C'est un livre qui a le titre « Zola et les historiens ». Ce sont les actes d'un colloque qui a eu lieu à Paris vers 2002 ou 2003, comme ça, à la BN, et édité par Michel Sacquin. Dans la préface à ce livre, « Zola et les historiens », Jean-Noël Jeannet écrit ceci. « Zola a lu et médité les historiens de son temps. » Ce qui est tout à fait vrai. Il serait également vrai d'affirmer que Zola a lu et médité les ouvrages des représentants de la plupart des autres domaines et disciplines de recherche de cette période, anatomistes, physiciens, anthropologues et les psychologues. Pour ce qui est du champ de la psychologie, nous savons qu'à l'époque où il travaillait sur les trois villes, il a eu des contacts très suivis avec Georges Saint-Paul, le docteur Georges Saint-Paul, et le docteur Édouard Toulouse. À partir de la fin de l'année 92, quand Saint-Paul faisait sa thèse de médecine, Zola et Saint-Paul ont des échanges. Et avec Toulouse, pendant l'enquête de 95, toute une année. Toulouse a fréquenté Zola pour lui poser des questions sur tous les aspects de sa physiologie et sa psychologie. J'ai indiqué tout à l'heure aussi que Zola était très attentif à la pensée de Tarde, qui est un psychologue, sociologue important, fin de siècle, co-directeur des archives d'anthropologie criminelle, professeur au Collège de France à partir de 1902 ou 3. Donc, quatrième partie, Zola, psychologue, point d'interrogation. Dans la revue anarchiste de février 1932, Camille Bernery écrit ceci, citation 12. Il se peut qu'on ait déjà examiné la psychologie zolienne d'une façon suffisante. Mais je pense qu'il y a quand même encore quelque chose à dire, notamment après Freud. Il faut penser que Zola est du temps de Gall, de Charcot, et qu'il n'était même pas arrivé au psychologisme analytique de Jeannet. En attendant un bon livre sur la psychologie zolienne, j'aime indiquer en Zola un grand psychologue. Trop de gens ne le reconnaissent pas comme tel, parce que le roman psychologique est conçu comme une broderie d'examen d'état d'âme. Déjà, il y a longtemps, il y a ce critique qui avance l'idée de l'intérêt d'une étude de la psychologie de Zola. Ce n'est pas du tout ma perspective, mais ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de placer Paris dans le contexte de épistémologique de la psychologie en tant que discipline dans ces années très précises de 92, 13, 14, 15. Donc ce qu'affirme ce critique que je viens de lire est très intéressant. Mais il faudrait positionner Zola à l'époque des trois villes, non pas par rapport à Gall, Charcot et Jeannet, me semble-t-il, mais plutôt par rapport aux médecins et psychologues de la génération suivante, Saint-Paul et Toulouse, dont les recherches sont contemporaines à celles de Freud. C'est ce que je vais essayer de faire très brièvement dans cette quatrième partie de mon exposé, en répondant à la question épistémologique suivante, par rapport à quel savoir peut-on situer Paris dans le contexte idéologique des années 1890. Mon hypothèse est qu'il existe un parallèle entre la démarche de Pierre Frovent, enquêteur, et celle de ces deux médecins, par exemple, qui ont eu, comme je l'ai dit tous les deux, des contacts très suivis avec Zola à ce moment précis. Il est clair que Zola s'intéressait vivement à ce qui se passait dans le champ de la psychologie. la psychologie à cette époque précise est en train de se constituer sur le plan institutionnel en tant que discipline autonome. Théodule Ribot n'a été nommé à la chaire de psychologie expérimentale et comparative au Collège de France qu'en 1889. Dans les facultés de médecine, il n'y a pas encore de cours sur la psychologie. On peut regarder, par exemple, les entretiens que Zola a donnés dans ces années précises, pour savoir un peu de quoi il, ce qu'il pensait, comment le situer par rapport à la psychologie. Les entretiens avec journalistes, parce que Zola donnait une quantité énorme d'entretiens aux journalistes à cette époque. Il laisse l'impression, Zola, parfois dans ses entretiens avec les journalistes, qu'il a des connaissances un peu vagues, générales, comme dans la réponse suivante qu'il donne aux journalistes du Gil Blas le 12 mai 1893. C'est la citation 13. Je suis un vieux positiviste, moi. J'ai horreur des métaphysiques. Je n'entends rien aux théories. Sur ces grands polémiques. On a voulu m'entraîner, table tournante, spiritisme. Je n'ai jamais voulu voir ça. Je ne serais pas convaincu. Et je perdrais ma tranquillité d'esprit. Pourquoi me montrer un phénomène que je ne comprends pas et que la science expliquera peut-être dans 5 ans. Non, parlons d'autre chose, voulez-vous. Mais la réponse que donne Zola au journaliste du Figaro du 4 août 1893 est bien plus précise. Il s'agit d'un entretien dans lequel Zola explique qu'il pourrait entrer dans le monde de la politique comme député, mais qu'il n'aime pas parler en public. Et voilà ce qu'il raconte au journaliste, c'est la citation 14. À côté de cela, j'ai un défaut, un grand défaut. C'est vrai, je ne suis pas orateur. C'est un de mes plus graves regrets. Je suis sûr que le don de la parole, car c'est un don, s'inscrit au cerveau, dans une case à part. On a la case de l'orateur, comme on a la case de l'écrivain. Zola renvoie ici explicitement, me semble-t-il, aux recherches dans le domaine de la physiologie, du cerveau, dont il a très probablement entendu parler par l'intermédiaire de Georges Saint-Paul, à la fin de l'année 1892, quand Saint-Paul est allé chez Zola pour avoir les réponses à son questionnaire sur le langage intérieur. Dans la thèse de Saint-Paul, qu'il a très probablement envoyée à Zola, il y a toute une explication de des recherches les plus récentes sur la physiologie du cerveau dans le terme que l'utilise Zola, case, cerveau. Et donc, dans la thèse de Saint-Paul, je vais citer un extrait de la réponse que Zola donne à l'enquête de Zola de Saint-Paul sur le langage intérieur. C'est la citation 15. « Je ne me souviens pas, pour le plaisir, de me souvenir. Je n'exerce pas cette grosse mémoire pour le plaisir de l'exercer. Tout ce qui ne nécessite pas un peu d'invention m'endort. Mais je ne dors plus dès que je puis crier. » Dès que je fonctionne le centre d'invention littéraire. Zola reproduit ici la terminologie spécialisée qui lui a été communiquée probablement par Saint-Paul. Le terme « centre » est utilisé par les physiologistes à cette époque pour désigner les différentes régions du cerveau et la fonction spécifique qui est attribué à la région, à cette région. Par exemple, dans un long développement de sa thèse, Saint-Paul explique qu'il existe dans le cerveau 3 centres psychomoteurs qui sont autant de centres d'emmagasinement de sensations, chacun ayant une fonction spécifique relative au langage. L'intelligence et la créativité, selon cette théorie, se localisent dans le lobule frontal du cerveau. Dans un autre entretien, celui du 2 novembre 1893, donc avant que l'ébauche de Paris soit écrite, Zola fait allusion aux travaux de Gabriel Tarde. Donc, c'est bien avant qu'il commence à travailler sur les ouvrages, les livres, les articles de Tarde. Je cite citation 16, « Quelqu'un, Monsieur Tarde, je crois, a fait une assez longue étude sur la foule criminelle. Il y dit avec raison que de très honnêtes gens, dès qu'ils s'agglomèrent en foule, peuvent fort bien aller jusqu'au crime. Pour lui, la foule est un être d'une nature particulière. » Donc, une petite conclusion. J'espère avoir avancé 2 ou 3 arguments qui justifient la préparation et la publication d'une nouvelle édition critique de Paris. Cette nouvelle édition sera intéressante si elle propose une étude génétique qui diffère de celles qui ont déjà été faites. Il faudrait aussi que la méthodologie en soit claire et explicite et que l'interprétation du texte de ce roman soit innovante. Une approche qui s'inspire de l'épistémocritique nous semble une direction prometteuse. L'hypothèse que nous allons essayer de continuer à explorer consiste à situer les 3 villes par rapport à un nouveau savoir, cette nouvelle discipline, la psychologie, qui est en train d'émerger dans les années 1890. Et je renvoie pour une étude vraiment excellente de la psychologie en tant que discipline et l'émergence de cette discipline à la fin du XIXe siècle. Je renvoie aux travaux de Jacqueline Carrois qui ont expliqué dans le détail comment on peut voir ce phénomène. Il s'agit d'une psychologie qui tente de se séparer de la philosophie et de circonscrire un champ d'investigation spécifique avec une méthodologie spécifique. Les traces de ce glissement disciplinaire et paradigmatique se lisent dans le dossier préparatoire de Paris et dans la première édition. Pour résumer, on pourrait dire donc qu'entre les Rougon-Macquart et les 3 villes, il y a un glissement épistémique, pour reprendre l'expression de Bertrand Marker, qu'il a utilisé dans son étude de Lourdes. Je le cite encore, je répète, l'enjeu désormais, ce n'est plus tant la quête de la vérité que le constat du pouvoir de l'illusion. Thomas Conrad souligne une autre différence importante de type épistémique qui caractérise les 3 villes et qui représente une piste stimulante. Les 3 villes mettent en scène, citation de Thomas, la relation entre le monde et le sujet qui pense. Les 3 enquêtes entreprises par Pierre Froment à Lourdes, à Rome et à Paris mettent en scène la relation entre le monde et le personnage qui le pense. Pierre Froment est un personnage profondément introspectif, angoissé et surtout circonspect, constamment en train d'analyser ses propres réactions et de se poser des questions devant le monde et les gens qui l'entourent. On voit cet aspect du personnage dès les premières pages de Paris. Et je cite, citation 17, c'est tout début du roman Paris, « Mais les souvenirs venaient d'être lâchés, Pierre n'était plus à sa détresse, tandis que machinalement il accomplissait les rites, faisait les gestes professionnels. Depuis son retour de Rome, depuis 3 ans, il vivait dans la pire angoisse où puisse tomber un homme. » Le mot psychologie revient souvent dans l'ébauche du roman. Exemple, C'est le moment où Zola est en train de mettre en place un peu les différents aspects du personnage de Guillaume, le frère de Pierre. Zola écrit « Je ne puis rien avoir si je ne fixe pas la psychologie de Guillaume ». Dans un autre moment de l'ébauche, Zola écrit « Je verrai donc volontiers la première partie du roman pour toute cette peinture, l'état psychologique de Pierre. La peinture par lui de l'affreuse misère. » Le 24 novembre 1896, au moment où Zola est en pleine préparation de Paris, il publie un article dans le quotidien parisien, le journal, avec le titre « L'enquête du docteur Toulouse ». L'article a le double objectif de défendre l'enquête sur lui que Toulouse était sur le point de publier et d'attaquer les journalistes qui avaient déjà commencé à publier des articles moqueurs sur ce livre qu'ils ne l'avaient pas encore lu. Et c'est la dernière citation sur l'exemplier 18. « Et quant à moi, je préfère assister à ma dissection que de livrer mon ombre à l'inconnu du scalpel. » La citation qui me semble symptomatique d'un changement significatif dans la relation de l'écrivain à lui-même et à son œuvre suggère que Zola, en 1896, est d'accord pour céder la place qu'il avait occupée en 1880, à l'époque du roman expérimental. En 1896, il ne tient plus à être celui qui tient le scalpel. Il est encore moins question pour lui de parler de la fameuse méthode expérimentale ou du romancier expérimentateur qu'il avait défendu avec tant d'ardeur quelques années auparavant. Sa position, c'est-à-dire celle de Pierre Froment, est maintenant celle du sujet qui regarde et médite ce qui lui arrive pendant qu'il observe le monde autour de lui. Je vous remercie de votre attention.